BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba.
Et les députés allemands qui ont donc approuvé à une très très large majorité aujourd'hui le troisième plan d'aide à la Grèce, les parlementaires qui ont donné leur accord, on en parle avec vous, Christian de Boissieu, vous êtes membre du cercle des économistes et professeurs à l'université Paris 1. Ce vote devant le parlement allemand, on va être très très honnête, hein, il n'avait pas,
pas une surprise. Hein.
Il n'avait pas, voilà, j'allais vous dire, il n'avait pas grand intérêt. C'est le suspense n'était pas franchement à son comble.
Ça confirme ce qu'on attendait. Bon, il faut bien voir que le climat général s'est quand même beaucoup amélioré depuis 15 jours, 3 semaines, par rapport au climat très tendu au bord de la rupture fin juin, début juillet. Chacun veut aller de l'avant, on veut éviter la rupture. Monsieur Tsipras, le chef du gouvernement grec, a quand même donné des gages importants.
Il a continué d'ailleurs récemment avec la privatisation de 14 aéroports
régionaux. Voilà les aéroports régionaux, j'ai vu ça. Donc il donne des signaux qui sont quand même, qui vont dans la bonne direction, en tout cas pour les créanciers. Et du côté allemand, il y a également plus de pragmatisme. Alors il y a un débat qui court et qui court toujours, c'est-à-dire est-ce qu'il faut ou pas réchelonner la dette grecque. Et ça rejoint
la grande question.
Ça rejoint la position du Fonds monétaire international, puisque Christine Lagarde, la patronne du FMI, a dit la dette grecque aujourd'hui n'est pas soutenable dans la durée. Donc s'il n'y a pas de forme de réchelonnement, ça sert à rien de faire le plan d'aide.
Et les Allemands sont pas foncièrement pour. Hein,
par le moment. Mais Madame Merkel entrouvre une possibilité. Moi, je crois qu'on va aller vers ça, parce qu'il faut que le FMI revienne quand même autour de la table. Et pour l'instant, le FMI dit, nous ne voulons pas revenir tant qu'il n'y a pas un début de réchelonnement de la dette grecque, parce qu'elle n'est pas soutenable. Dixit, le Fonds monétaire international. Je dis, Madame Merkel a laissé la porte ouverte depuis quelques jours en disant qu'elle n'était pas contre le fait, disons, de revoir les maturités, allonger les maturités ou baisser les taux d'intérêt, ou les deux, ce qui est une forme de, ce qui est une forme de réchelonnement. Moi, je crois qu'il faut rien faire d'autre. On va pas annuler comme ça, exempter la grecque, mais on va donner un peu plus de temps au temps et donner aux Grecs un peu plus de temps pour s'ajouter. Et ça permettra de faire revenir le FMI autour de la table ou de le faire venir, puisque jusqu'à présent il était là. Il faudrait pas que la rentrée de septembre et les assemblées annuelles du FMI de la Banque mondiale soient encore marquées par ce débat.
On nous dit que le mécanisme européen de stabilité doit tenir une conférence téléphonique, ce soir, pour approuver donc le déblocage d'une première tranche d'aide à la Grèce. Qu'est-ce que c'est exactement cette conférence téléphonique? Elle va servir à quoi?
D'abord, le MES, le mécanisme européen de stabilité, qui est installé à Luxembourg, a pris la suite de ce qu'on avait créé en 2010 au moment de la première crise grecque, le Fonds européen de stabilité financière. Donc le MES prend la suite du FESF, Fonds européen de stabilité financière, et quand vous regardez les 320 milliards d'euros de dette grecque, il y en a à peu près 50%, c'est-à-dire pratiquement 150 milliards d'euros, qui sont dans les mains du MES, après avoir été dans les mains du Fonds européen de stabilité financière. Ça veut dire que l'État allemand, l'État français, et derrière eux les contribuables concernés, allemands, français, etc., ils sont créanciers de la Grèce. En bilatéral, les relations directes entre l'État français et l'État grec, les prêts directs, mais aussi via, pour l'essentiel, via le mécanisme européen de stabilité. Et donc, c'est pour ça que le MES est forcément dans le débat sur la Grèce. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, il va ce soir approuver. Je serais très étonné qu'il ne le fasse pas, puisque tout le monde le fait.
Il
faut le mettre dans la boucle, parce que, je répète, les États européens sont créanciers de la Grèce, non seulement en direct, mais en indirect, via le mécanisme européen de stabilité.
Mais là, tout le monde applaudit des deux mains en disant c'est fabuleux, tout se passe bien. Mais Christian Bossu, on n'a pas d'autre choix. De toute façon, on est bien.
Non, mais j'ai toujours pensé qu'on n'avait pas d'autre choix. C'est pour ça que j'ai jamais cru au Grexit, à la sortie de la Grèce, parce que, pour moi, c'eût été un scénario perdant-perdant. Donc je pense que là, on en a tiré les conséquences début juillet dans l'accord, courant juillet, et donc maintenant, on est dans ce scénario où il s'agit que chacun fasse un pas pour éviter que tous les 2 ou 3 mois, on vive le psychodrame du Grexit. Grexit ou pas Grexit.
Il y a quand même un côté un peu ironique dans cette affaire quand on voit aujourd'hui Wolfgang Schäuble qui lui-même demande aux députés allemands de bien vouloir voter ce troisième plan d'aide. On sait que s'il y en a bien un qui était contre tout ça, c'était bien Wolfgang Schäuble.
Oui, je pense qu'il est quand même fondamentalement honnête et qu'il ne joue pas un jeu simplement. Je pense qu'il ne veut pas non plus embarrasser sa chancelière, qu'il a toujours défendu, Madame Merkel n'avait pas une occasion de dire du bien de son ministre des Finances. Donc, ils ont des rapports de confiance. Et certes, au départ, il y a un mois et demi, Schäuble était plus dur qu'Angela Merkel. Je crois qu'aujourd'hui, le ministre des Finances allemand s'incline ou respecte le choix qui a été fait par la chef de gouvernement, par Madame Merkel.
Bon, et puis si on y regarde bien quand même, dans tous ces chiffres qui circulent, l'Allemagne n'est pas perdante non plus dans cette affaire. Hein. 100 milliards d'euros gagnés ou économisés en tout cas grâce à la crise grecque avec les taux d'intérêt extrêmement bas dont a profité l'Allemagne.
Bon, là, c'est-à-dire que vous faites le tour des avantages et inconvénients au premier, au deuxième, au troisième degré, etc. C'est-à-dire qu'il est clair que la crise grecque, comme la crise irlandaise en 2010, portugaise, etc., à l'époque, tout ça, ça a provoqué un report des investisseurs vers ce qu'on appelle la qualité.
En anglais, quality.
Fly to quality. Ça veut dire que les investisseurs se sont portés vers les taux sans risque, les taux allemands, qui restent très bas, même s'ils ont un peu remonté. La France
en a profité aussi.
On a profité aussi, parce qu'on a, certes, on paye une prime de risque, mais enfin, aujourd'hui encore, quand je regarde les taux à 10 ans, l'État français, il emprunte un peu moins de 1% nominal, 0,90, entre 0,90 et 1%.
En ayant perdu son triple A, etc., d'ailleurs.
Hein, oui, mais je veux dire, on n'est pas en première ligne ni en deuxième ligne sur cette affaire de la crise de la zone euro. Donc, on fait encore partie des pays qui sont bien valorisés par les investisseurs. Donc, le fly to quality, le repas vers la qualité, il est là. Alors, on peut dire, s'il n'y avait pas eu la crise grecque, les taux allemands, les taux français seraient plus élevés. On peut faire cette analyse coût-avantage. Objectivement, cette crise de la zone euro qui a commencé début 2010... Soyons clairs, on s'en serait bien passé. Je pense que l'Allemagne aussi s'en serait bien passé.
84% des personnes interrogées en Allemagne, d'après un récent sondage, affirment ne pas faire confiance en la volonté de réforme des Grecs. Ça n'est pas votre discours. Vous nous dites, Tsipras, tiens, jusqu'à maintenant, tiens ses promesses.
Les Allemands ont toujours été sceptiques sur les capacités des pays de leur sud, d'Europe du Sud, à faire des réformes. Je pense d'ailleurs que les Allemands sous-estimaient les ajustements qui sont intervenus en Espagne. L'Espagne a fait de très sérieux ajustements. Et on le voit bien dans le rebond de ses exportations et de sa croissance. Du côté grec, je suis pas du tout en train de vous dire que c'est réglé. Parce qu'il y a des tas de réformes de structure qui sont encore devant eux, qui sont encore sur la table, la réforme fiscale, les privatisations. Il y a un signal qui est donné aujourd'hui avec la privatisation des aéroports régionaux, mais il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Le débat sur le salaire minimum, le débat sur la réforme des retraites. Voilà, ça va pas être facile, mais ce qui me paraît important, c'est le delta, c'est la direction qui est prise. Et c'est ça qui fait que l'ambiance est un peu meilleure, c'est que le gouvernement de Tsipras quitte à se brouiller avec ses frondeurs. Il est contesté.
Ça c'est fait.
C'est fait. Contesté sur sa gauche. Il donne quelques gages pour qu'on puisse aller de l'avant. Ouais, voilà.
C'est peut-être Tsipras, au final, qui fera la Grèce remettra sur les rails.
Que la croissance grecque va...
Justement, parlons-en de cette croissance grecque. Il sort d'où ce 0,8% là, qu'on a vu passer pendant cet été?
J'ai regardé ça il y a quelques jours quand c'est sorti. Je trouve ça assez suspect du point de vue statistique. Bon, ça, si vous voulez, quand vous êtes au fond de la piscine, vous rebondissez. Donc, première interprétation, vous faites un plus 0,8 sur un trimestre parce que vous étiez à moins quelque chose de grave avant. Bon, mais quoi qu'il en soit, par-delà ce chiffre dont on ne sait pas tellement d'où il sort, en moyenne sur l'ensemble de l'année 2015, la Grèce va quand même être en récession. C'est ça qui compte.
Bon, l'actu de cet été, c'est également du côté de la Chine qu'elle se tient, avec ce matin une injection de 100 milliards de dollars dans deux banques chinoises, des mesures pour tenter évidemment de stimuler l'activité. C'est-à-dire que visiblement, les autorités chinoises, mine de rien, s'inquiètent réellement de leur économie intérieure.
Ça veut dire que le chiffre officiel qui consiste à dire la croissance chinoise est quelque part entre 6 et 7%.
Ça, personne n'y croit.
Mais non, mais Personne n'y croit, mais moi je suis obligé de travailler avec le chiffre officiel parce que c'est très difficile de reconstituer les vrais chiffres, même quand vous partez des consommations de pétrole ou d'énergie, ce que font certains de mes collègues en disant la croissance chinoise pourrait être entre 2 et 3, c'est très compliqué. Je veux dire, ils sont clairement sur une pente descendante et c'est sans doute plus grave que ce qu'ils disent parce que sans ça, il n'y aurait pas eu cette dévaluation un peu précipitée de la semaine dernière et il n'y aurait pas eu ces mesures d'injection de liquidités qui font penser à une forme de quantitative easing, d'assouplissement quantitatif qui vise à la fois à favoriser la reprise ou en tout cas à limiter le ralentissement de la croissance et en même temps qui va avoir pour conséquence aussi de faciliter la baisse du taux de change parce qu'on l'a bien vu du côté japonais nous aussi du côté de la BCE depuis juin 2014, quand vous faites du quantitative easing, c'est pas uniquement pour relancer la croissance, c'est aussi pour relancer la croissance via une baisse de votre taux de change. Donc là, c'est assez cohérent du côté chinois de relancer des liquidités, d'injecter des liquidités nouvelles quelques jours après avoir annoncé la baisse du taux de change.
Et justement, le yuan, il va continuer d'être dévalué. Bon, là, il ne s'est rien passé depuis 3-4 jours, mais
Je pense que ce n'est pas fini. Je pense qu'on est sur un ajustement en répétition, qu'eux-mêmes, ils ne savent pas exactement où il faut aller.
Certains disent 10 à 15% d'évaluation.
Peut-être. On est dans la guerre d'échange, clairement. La Chine est revenue dans la guerre d'échange après on est sorti pendant un an. Elle est revenue dans la guerre d'échange. Le Japon est un acteur très, très agressif de la guerre d'échange puisqu'il fait tout pour faire baisser le yen. La zone euro, à travers le quantitative easing de la BCE, est aussi dans la guerre d'échange. La question qui m'intéresse, c'est tout ça, ça a pour conséquence de faire monter le dollar. Il y aura un moment donné où les Américains vont essayer de siffler la fin de la récré en disant la hausse du dollar, ça nous pose à nous un problème.
C'est Janet Yellen qui va la siffler, c'est la Fed qui va siffler.
Peut-être le Trésor américain, le gouvernement, parce que et vous allez avoir des mesures de rétorsion commerciale qui vont être prises par les Américains, qui vont accuser leurs partenaires du G7, du G20, de laisser filer leur taux de change. Et on va se rendre compte que le monétaire et le commercial sont pas séparables. Donc moi, c'est ça la question qui m'intéresse pour les prochains mois, pour les prochaines réunions du G20, pour l'assemblée annuelle du FMI, de la Banque mondiale en octobre. C'est-à-dire qu'on va avoir, à mon avis, discussion sévère, parce que les Américains, pour l'instant, ne crient pas trop, ne se plaignent pas trop la hausse du dollar, mais il y aura un seuil à partir duquel ils vont commencer à pousser des cris d'orfraie.
Un mot quand même de ce qui se passe en France avec cette croissance nulle pour le dernier trimestre écoulé. Le gouvernement qui doit forcément également commencer à préparer là, son budget 2016. On nous dit que les rentrées fiscales sont moins importantes que prévues. Ça va être compliqué ce budget 2016.
Ça va être compliqué. Les rentrées fiscales, par exemple la TVA rentre moins bien. C'est pas uniquement un problème de croissance qui est à zéro, c'est aussi le fait que l'inflation est proche de zéro. Or, la TVA, elle dépend des transactions en valeur, pas uniquement des transactions en volume. Or, les conséquences de la Chine dont on parlait tout à l'heure, c'est la baisse des matières premières, la baisse du pétrole qui s'est accélérée depuis quelques jours. Donc l'inflation risque de chuter, elle redevient légèrement négative, elle peut être négative. Et donc là, c'est pas bon pour les rentrées fiscales. Un dernier point là-dessus sur la préparation du budget 2016. Le FMI en juillet a annoncé pour la France une croissance l'année prochaine de 1,5. C'était l'hypothèse du gouvernement.
On est sur 1,2 là d'après Moody's.
Pour l'année prochaine, on verra. Je vais vous dire mon sentiment. Il faut pas revoir tous les 15 jours les prévisions de croissance. Donc je pense qu'il faut se donner un mois, un peu de recul, savoir ce qui va se passer sur la Chine, ce qui va se passer sur la Grèce, pour, au moment où le gouvernement va présenter la loi de finances devant le Parlement pour débat parlementaire, voir à ce moment-là s'il faut revoir la prévision de croissance l'année prochaine. Mais pas maintenant. Je pense que c'est trop tôt, parce qu'il ne faut pas courir après les événements.
Les 20 milliards d'économies là qu'il va falloir faire, on va les trouver où ?
Ben, d'autant plus qu'il y a certaines dépenses qui vont augmenter. Les contrats aidés, 100 000 contrats aidés en plus. La défense, qui a besoin de retrouver un peu d'argent compte tenu des événements dans le monde et des risques géopolitiques, le terrorisme, etc. Bon, il y a des créations d'emplois dans l'éducation. Donc, je pense que on va les trouver probablement dans le logement, mais avec un sujet, c'est que le logement non plus, le bâtiment, la construction, on va pas très bien. Donc, si on réduit les aides à la pierre, les aides à la personne, comment on boucle tout ça?
C'est même le secteur aujourd'hui qui se porte le plus mal.
Bon, donc, on va aller chercher du côté des collectivités locales, on va aller chercher du côté de la sécurité sociale, les dépenses de santé, parce qu'il faut travailler sur les trois étages de la fusée. État, collectivité locale, sécurité sociale. Donc, le débat sur le budget de l'État qui va commencer disons à l'automne, va être un débat compliqué, mais il n'est pas le seul débat. Il faut regarder ce qui se passe du côté des deux autres étages de la fusée également, donc collectivité locale et sécu.
Dernier mot, après je vous laisse tranquille, Christian Boissieux, sur les entreprises, les PME, en l'occurrence, je sais que vous y intéressez tout particulièrement. Vous avez le sentiment, l'impression que l'État, le gouvernement a pris réellement la mesure de ce qu'est une PME aujourd'hui, de leurs difficultés et surtout du bassin d'emploi, de création d'emplois possible.
Moi, je pense qu'il y a, pour une fois, les économistes sont d'accord sur un point, c'est que la relance de l'activité et la création d'emplois passe avant tout par la bonne santé des PME et des entreprises de taille intermédiaire. C'est la première remarque. Deuxième remarque, je pense que la question du financement des PME va être une question centrale en France comme dans d'autres pays européens dans les mois qui viennent. Parce que les banques, avec les nouvelles réglementations, vont probablement prêter un peu moins aux petites et moyennes entreprises. Alors, il suffit pas de dire les marchés vont compenser ce que les banques donneront moins. Il faut organiser tout ça. Donc, les débats sur le financement du PME, ce débat va être central. Il faut probablement augmenter disons la dotation ou les ressources de BPI France, Banque publique d'investissement France. Il faut mettre en place en œuvre très très vite le plan Juncker au niveau européen, 315 milliards d'euros sur 3 ans, mais c'est maintenant qu'il faut aider à consolider, plutôt à favoriser la reprise en Europe, c'est pas dans 2 ans. Et parmi les dépenses du plan Juncker, il y en a beaucoup en faveur de l'innovation, de la R&D, du financement des PME. Donc là aussi, il faut travailler sur les deux étages de la fusée, l'étage français, c'est-à-dire l'étage national et l'étage européen.
Bon, il y a du pain sur la planche. Merci beaucoup, Christian Boissieux, d'avoir été avec nous, membre du Cercle des économistes et professeur à l'Université Paris 1. Merci encore. Vous restez avec nous sur BFM Business, on marque une petite pause en plein cœur de ce grand journal, et puis juste après, on revient sur ce piratage informatique subi par Ashley Madison, le site de rencontres adultériennes. On en parlera dans quelques instants donc avec Laurent Elso, le directeur des stratégies et de sécurité de Symantec. C'est à suivre.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba.
Les données de quelques 32 millions d'internautes et d'utilisateurs du site de rencontre extra-conjugale Ashley Madison rendues publiques aujourd'hui. On en parle avec vous. Laurent Elso, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, directeur des stratégies de sécurité chez Symantec. On va donc revenir sur ce piratage. Piratage impressionnant, hein, parce qu'en fait, il s'est passé en deux temps. Première fois, donc piratage, les hackers s'emparent d'un certain nombre de données. Et puis, ils donnent un mois au site pour leur dire, voilà, votre site n'est pas vraiment moral, vous le fermez. Autrement, on publie ce qu'on a réussi à récolter. Les dirigeants du site n'ont pas voulu le fermer. Résultat, voilà, donc aujourd'hui, des data, comme on dit, qui se retrouvent un peu partout sur le site. Généralement, c'est plutôt de l'argent que l'on demande à des responsables de site, plutôt que de fermer purement et simplement, non ?
Oui, alors la première chose, c'est toujours face à ce genre de cas, de rester très très circonspect par rapport aux annonces, par rapport à ce qui peut être dit au départ, parce que on peut évidemment avoir une revendication qui pourrait être idéologique, par exemple, mais qui in fine se transforme en quelque chose de beaucoup plus crapuleux. On voit aussi que les informations qui sont soi-disant fuitées, est-ce que ce sont vraiment celles qui viennent de ce site-là ? On semble voir aujourd'hui pas mal d'informations fausses, hein, qui sortent soi-disant de ce site-là. Donc il faut faire un petit peu le tri avant tout et prendre un petit peu le temps de bien comprendre ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Pour l'instant, ça reste peut-être un petit peu tôt, mais en effet, on a globalement deux catégories d'attaques, les attaques qui sont à but, on va dire, idéologique entre guillemets et ou crapuleux, mais c'est rarement les deux.
Il y a beaucoup d'attaques idéologiques.
De plus en plus, c'est vraiment la troisième grande motivation. La première motivation autour des cyberattaques, c'était plutôt la motivation technologique, si on peut dire, avec les hackers, qui sont pas forcément d'ailleurs malveillants, hein, faut être très clair là-dessus. Ensuite, on a vu apparaître, lorsque l'Internet s'est monétisé, bien sûr, la partie plus crapuleuse, hein, tout ce qui est cybercrime en général. Et puis, plus l'Internet s'implique dans nos vies, également dans la vie publique, évidemment, plus la partie idéologique ou politique est une motivation.
Les responsables du site affirment travailler désormais main dans la main avec les autorités pour tenter d'identifier les responsables. Très franchement, est-ce que c'est possible de remonter la trace de hackers ?
Oui, c'est de plus en plus possible, hein, et ça va dépendre effectivement à qui on a affaire. Lorsqu'on a affaire à des cybercriminels purs et durs, à un moment donné, va bien falloir récupérer l'argent. Et c'est souvent en suivant l'argent, follow the money, que l'on va finir par les avoir. Il suffit de regarder les unes, notamment des sites du FBI, par exemple, pour voir qu'il y a pas mal d'arrestations. Après, quand on est dans l'idéologique, mais là, on parle plus potentiellement de politique, etc., il faut faire beaucoup plus attention, parce que là, on va utiliser ou vont être utilisés tout un tas de moyens pour se cacher, des écrans, tout un tas de systèmes techniques pour masquer les identités, anonymiser, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué, et puis ça va dépendre aussi des moyens mis en œuvre.
C'est pas le tout de voler de la data, il faut savoir après l'utiliser, il faut savoir après la convertir en information.
Exactement. Et puis il faut surtout, l'idée c'est souvent de la convertir en argent. Il y a d'ailleurs un site là qui est, il y en a même plusieurs, hein, qui ont déjà ouvert pour vérifier si son adresse mail personnelle ne fait pas partie des informations soi-disant ayant fuité du site en question. On peut même, je vous conseille pas de le faire, mais je peux vous dire que nous l'avons testé. En mettant n'importe quelle adresse mail, le site en question nous dit que vous aviez bien votre adresse mail sur le site en question. En mettant n'importe quoi. Donc il faut faire très attention, il va y avoir pas mal d'arnaques autour de tout ça, il va y avoir des campagnes de spam, il va y potentiellement y avoir aussi, pourquoi pas, des tentatives d'extorsion, en disant, on sait que vous étiez sur le site, donc on va vous demander de l'argent pour ne pas divulguer l'information, et tout ça va partir un peu dans tous les sens.
Aucune entreprise aujourd'hui peut se dire à l'abri de ce genre d'attaque ?
Les attaques aujourd'hui visant les informations confidentielles ou sensibles d'une entreprise, c'est malheureusement monnaie courante. Il est évident que, c'est ce qu'on dit d'ailleurs aujourd'hui, il y a deux catégories d'entreprises, hein, celles qui ont été attaquées et celles qui ne le savent pas encore. Mais c'est quelque chose qu'on voit constamment. Donc aujourd'hui, il est de plus en plus important de protéger ces informations confidentielles, que ce soit des informations à caractère personnel ou bien des informations confidentielles, ne serait-ce que pour les affaires. La Commission européenne, d'ailleurs, travaille sur un projet qui devrait, a priori, voir le jour d'ici la fin de l'année, concernant une nouvelle réglementation imposée à toutes les entreprises qui vont traiter des informations à caractère personnel, donc vos données, mes données, en ce qui concerne la collecte, le stockage et éventuellement la partie effacement des informations. Et les entreprises qui ne sont pas... Alors ça va concerner toutes les entreprises européennes, hein, quasiment. Et les entreprises qui ne seront pas conformes avec cette réglementation pourront voir des amendes allant jusqu'à, enfin, c'est ce qui est discuté en tout cas aujourd'hui, jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial.
Ouais, c'est énorme.
Donc c'est vraiment des choses qui sont prises à bras-le-corps, notamment, vous voyez, par les politiques à Bruxelles.
En fait, il y a eu un changement de mentalité, c'est-à-dire que jusqu'à il y a assez peu de temps, on se contentait de protéger les machines. Aujourd'hui, on doit protéger l'information.
Ben, on est devenu cyberdépendant. À titre individuel, à titre de collaborateur d'une entreprise, à titre de citoyen, nous sommes tous cyberdépendants. Donc il est aujourd'hui très important, effectivement, non plus simplement de protéger les infrastructures informatiques, qui sont d'ailleurs de plus en plus, on va dire qu'on va trouver absolument partout, et notamment maintenant aussi dans tout ce qui est informatique industrielle, donc plus simplement l'infrastructure, mais bien sûr les informations, et aussi de plus en plus les identités.
Elle repose sur quoi cette politique de sécurité ? Parce que vous le disiez, il y a de l'humain également derrière tout ça, mine de rien.
Voilà, et c'est exactement les trois dimensions qu'il faut systématiquement adresser lorsqu'on veut traiter de la protection des systèmes d'information. C'est d'une part, le premier volet, c'est la partie humaine, avec de la formation, de l'information, de la sensibilisation. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit renouveler en permanence, d'ailleurs. Un deuxième élément qui va être l'élément, on va dire, procédural ou organisationnel. Hein, je prends un exemple au hasard. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un employé quitte une entreprise ? Ben, il faut s'assurer qu'il ne part pas avec des informations de l'entreprise, que tous ses comptes sont bien fermés. On a une statistique qui montre qu'en général, il faille plus de 6 semaines pour fermer les accès à un employé qui aura quitté son entreprise. Donc ça, c'est toute la partie, voilà, procédurale. Et puis la dernière évidemment catégorie, la dernière dimension, c'est la dimension technologique. Pourquoi ? Parce que tous les outils que nous utilisons possèdent malheureusement des failles qui sont là depuis la conception souvent, et c'est pour ça qu'on a besoin d'autres outils dont le but est vraiment de nous protéger contre les attaques technologique sur les différents systèmes qu'on va mettre en place. Donc voilà. L'humain, la procédure et la technologie.
La question qui se pose évidemment, c'est de savoir si ça coûte cher de bien se protéger.
Alors, ça coûte pas forcément cher de bien se protéger parce que il faut pas forcément protéger tout partout et tout le temps. Il faut avoir donc une idée claire des informations que l'on veut ou que l'on doit protéger. Moi, je me pose souvent la question à mes interlocuteurs. Vous avez forcément des informations sensibles. Et d'ailleurs, je vous la pose là maintenant, par exemple, hein, si vous m'écoutez. Où est cette information sensible? Où est cette information critique? Et qui y a accès? Eh bien, je peux vous assurer que c'est assez difficile, en général, d'avoir une réponse précise.
Merci beaucoup, Alain Marceau, c'est l'invité qui t'a suivi. Merci beaucoup, Laurent Elso, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Laurent Elso, directeur des stratégies de sécurité de Symantec. Merci encore. Vous restez avec nous. Alain Marceau est avec nous, justement. On parle avec lui dans quelques instants, notamment de l'épineux dossier de l'immigration. C'est à suivre.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba.
Alain Marceau, donc, avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Député UMP des Français de l'étranger, avec vous, nous allons revenir sur l'une des priorités du chef de l'État. Il en a donné quatre aujourd'hui à l'occasion du premier Conseil des ministres. Et parmi ces différentes priorités, donc, l'immigration. Il faut dire que l'Europe face à un afflux massif d'immigrants. On a appris cet après-midi notamment que l'Allemagne attendait jusqu'à 800 000 demandeurs d'asile en 2015. C'est un record absolu. Bernard Cazeneuve doit se rendre demain à Calais pour signer avec son homologue britannique un accord de coopération entre les deux pays. Par où, selon vous, faut-il prendre aujourd'hui ce problème de l'immigration?
Ben écoutez, dans ce pays, ce qu'il y a de formidable, c'est que une priorité chasse l'autre. Nous avions la priorité grecque il y a 15 jours. Aujourd'hui, c'est avant-hier, c'était la politique agricole matière porcine. Aujourd'hui, on vient de découvrir l'immigration. Et on va encore se livrer à quelques charivari, à quelques gesticulations politiques totalement inefficaces. Je crois qu'il faut quand même revenir aux sources de ce qui se passe. Nous, occidentaux, quand je dis occidentaux, américains, britanniques et français, nous avons semé la dévastation au sein du Moyen-Orient. Quand je dis Moyen-Orient, je parle très largement de l'Afghanistan jusqu'à la Syrie, l'Irak, l'Égypte, etc. Nous avons eu cette responsabilité. Nous avons créé une situation quasiment irrémédiable, irrévocable, tout simplement parce que nous avons installé des ordres. Il paraît que c'était pour chasser des dictateurs et pour mettre en place ce que l'on sait, à savoir entre d'un côté l'État islamique, Daesh ou Al-Qaïda.
Il y avait quand même des dictateurs.
Bon, il y avait des dictateurs, mais il n'y avait pas ce flot de migrants. Excusez-moi, j'ai l'impression que depuis que nous avons chassé les dictateurs, tous ces gens-là, les Afghans, les Irakiens, les Syriens, fuient ces pays. Ils fuient ces pays, ben, peut-être qu'ils préféraient les dictateurs ou peut-être que les dictateurs retenaient ces gens-là. Je ne parle même pas de la Libye. Je crois que nous avons semé une grande... nous avons détruit ces pays, et aujourd'hui, eh bien, tout simplement, les gens de ces pays, ils viennent se réfugier où? Eh bien, chez les destructeurs. En Europe occidentale, ils ne peuvent pas aller en Amérique parce que l'Amérique se protège. Et quels sont les deux pays phares, finalement, dans lesquels on vient facilement, ou à peu près facilement, comme on veut? Eh bien, c'est l'Allemagne et la France.
Alors,
je crois qu'au mois de juillet, on prétend 100 000, 100, Frontex qui dit 100 000 personnes,
107 500 précisément,
qui seraient arrivées aux frontières de l'Europe, qui bien évidemment vont arriver en Europe, vont être dans nos pays. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Voilà, j'allais vous dire, une fois que le Conseil est fait, qu'est-ce qu'on fait?
Mais bien sûr qu'on ne fait rien. Et on ne peut rien faire. D'abord, il faut savoir, il ne faut pas raconter d'histoire, comme le fait l'actuel gouvernement, ou comme veulent faire croire les Britanniques, que l'on va renvoyer ces gens chez eux. On ne va pas renvoyer les gens en Afghanistan, certainement pas en Syrie, certainement pas en Irak, encore moins en Libye. D'abord, on ne sait pas faire, on n'a même pas les bateaux pour le faire. Et puis les pays d'accueil, entre guillemets, les pays de départ, ne supporteraient pas que nous renvoyions ces gens dont ils sont bien heureux de se débarrasser. Et bien donc, ils vont séjourner sur nos territoires, d'abord en qualité d'illégaux. Alors il y aura les demandeurs d'asile qui obtiendront éventuellement l'asile dans 2 ans et demi en France, un peu moins en Grande-Bretagne. Ceux-ci auront un statut permanent, ils resteront indéfiniment, ils feront souche, ils feront des enfants, etc., etc. Et puis il y aura tous les autres qui n'auront pas obtenu le statut de demandeur d'asile, qui vont devenir des illégaux dans tous les pays d'Europe.
Mais c'est un problème de moyens. Est-ce qu'en imitant les moyens, on pourrait résoudre une partie de cette crise?
Mais quels moyens? Je veux bien, monsieur, mais les moyens, ça a un coût. Aujourd'hui, nous sommes un pays en crise. Nous avons, je crois savoir que nous avons 2 000 milliards de dettes, etc. On peut toujours effectivement mettre des impôts supplémentaires pour régler, pour accueillir accueillir ces gens-là pour les nourrir, les loger, les vêtir. Vous savez, j'ai vu que il y a quelques jours, un certain nombre d'entre eux ont manifesté dans un arrondissement de Paris et ils demandaient un meilleur traitement social, ils voulaient des assistantes sociales et même ils voulaient des titres de transport pour pouvoir circuler gratuitement. Mais on peut toujours faire plaisir, effectivement. Je crois qu'aujourd'hui, notre modèle social fait que nous sommes un pays d'accueil, nous sommes attirants, on attire, et bien il va falloir en payer le coût. Seulement maintenant, aujourd'hui, excusez-moi, on n'a plus un rond pour payer. Les caisses sont vides, on ne peut pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va installer la misère. Et on va rendre nos compatriotes un peu plus miséreux, tout simplement parce que nous allons accueillir combien? Ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce que l'Europe accueille maintenant près d'un million de réfugiés tous les ans. Pendant combien d'années? Mais ça veut dire que nous sommes en train d'assister à un énorme bouleversement qui peut être plus inquiétant que le bouleversement climatique sur lequel on va se pencher au mois de décembre.
Je crois savoir que vous rencontrez Nicolas Sarkozy demain. Oui. Quels seront les thèmes que vous allez aborder avec lui? Vous allez évidemment parler d'immigration, j'imagine.
Écoutez, avec Nicolas Sarkozy, nous nous rencontrons à chaque rentrée entre guillemets politique, même lorsqu'il n'était pas président des Républicains. On parle en général des problèmes que rencontrent les citoyens qui vivent dans ma circonscription, c'est-à-dire notamment ils vivent en Irak, en Syrie, au Liban, en Somalie et ailleurs. Ce sont des citoyens qui rencontrent de gros problèmes d'insécurité ou de sécurité. Et donc je m'ouvre au président des Républicains, à l'ancien président de la République, qui a eu des responsabilités éminentes et qui en aura peut-être un jour éventuellement, je m'ouvre de ces problèmes. Mais je parlerai demain de l'immigration et je vais me lui offrir un livre que je voulais vous montrer ici qui concerne la fin de l'Empire romain. Et je crois que tout cela est un peu finalement prémonitoire de ce qui peut se passer un jour ici en Europe. C'est peut-être notre empire qui va s'effondrer tout simplement parce que aujourd'hui ne peut plus faire face à une situation que nous avons créée.
Un mot du remaniement ministériel, parce qu'on va parler politique évidemment un peu avec vous. Déjà, quel regard est-ce que vous portez sur le travail de François Rebsamen?
Écoutez, je crois que c'est un échec total, mais est-ce qu'il pouvait réussir?
Voilà.
Je ne le critique pas, cet homme d'abord. Je suis député d'opposition, donc je n'ai pas à lui tresser de laurier, mais je crois que personne ne peut lui en tresser. Mais qui est-ce qui aurait pu réussir à sa place? Personne. Vous savez, nous avons un modèle social dont je parlais tout à l'heure, qui fait que c'est, tout simplement, nous ne pouvons pas créer d'emplois. Aujourd'hui, nous avons un coût du travail qui est absolument hors normes, et parce que ce coût du travail est ce qu'il est, eh bien nous ne pouvons pas créer des emplois. Et on ne le créera pas tant qu'on ne baissera pas le coût du travail. Et je crois qu'il faudra en revenir à l'idée qu'avait mise en place Nicolas Sarkozy, et c'est pas pour défendre Sarkozy, c'était au moins une bonne idée qu'il avait eue, c'était la TVA sociale. La TVA sociale qui permettra de baisser les charges du travail. On le voit notamment dans l'affaire agricole, avec la production de porc. Aujourd'hui, la France ne peut pas être concurrentielle, ni en matière industrielle, ni en matière agricole, même plus en matière de services, tout simplement parce que le coût du travail est trop élevé, et parce qu'il y a des charges. Les charges salariales et les charges patronales.
La solution de cette crise agricole passe par la baisse des charges?
Oui, totalement. Uniquement. Non, c'est à la fois, la crise, elle est à la fois structurelle et conjoncturelle. Conjoncturelle, pourquoi? Écoutez, bon, alors, les Chinois consomment moins de porc. Mais qu'est-ce que nous avons fait à la Russie? La Russie importait 150 000 tonnes de porc de la France tous les ans. La Russie nous sanctionne pour des raisons officiellement sanitaires. En réalité, c'est pour nous faire payer notre politique étrangère à l'égard de Moscou, l'affaire des Mistral, etc. Eh bien, ce sont, hélas, les malheureux producteurs de porc de Bretagne et d'ailleurs qui payent les errements de notre politique étrangère. Et Dieu sait que les errements de notre politique étrangère, ils sont nombreux, en particulier sur l'affaire russe.
Un mot également donc du bilan 2016 sur lequel le gouvernement est en train de travailler, en tout cas le chef d'État et le Premier ministre. Comment faire pour trouver les 20 milliards d'économies qu'il faut trouver avec une croissance nulle aujourd'hui?
Revenir tout simplement sur le modèle social. Mais écoutez, nous avons la chance d'avoir le modèle social qui nous est envié par le monde entier. C'est quoi notre modèle social? C'est la gratuité de tout. De la médecine, de la scolarité, de la retraite à 55 ans pour certains bienheureux appartenant à des catégories sociales bien particulières. Mais c'est fini, ce monde-là, il est fini. Il va falloir expliquer. Et j'espère que ça sera le rôle des prochains gouvernants. Et ça va être terrible parce que, comme disait Romain Gary, après cette limite, votre ticket n'est plus valable. Si les prochains gouvernants ne mettent pas en place la réforme fondamentale de notre système social, de notre modèle social, économique et social, nous n'arriverons pas, bien sûr, à faire ces économies, mais ces économies, on ne peut pas les faire. Elles ne se feront pas. Je vous rappelle quand même que nous avons, cette année, 80 milliards supplémentaires de dettes que nous venons de mettre en place, que nous allons voter sans doute au budget qui vient. Et où est-ce qu'on va en terminer? 2000 milliards plus les 1500 milliards de la retraite de la fonction publique. Parce qu'en réalité, le pays est endetté non pas de 2000 milliards ou 2100 milliards, mais 3600 milliards. Nous ne pouvons pas nous en sortir. Aujourd'hui...
Donc il faut tout remettre à plat?
La question qui se pose, est-ce qu'il existe aujourd'hui une véritable solution démocratique, je dis bien démocratique, en mettant en place un nouveau gouvernement, de gauche comme de droite, pour sortir de cette situation.
Si je vous pose la question.
Est-ce qu'effectivement on peut aujourd'hui revenir sur le modèle social sans mettre la France dans la rue? Je ne le crois pas. Je suis assez désespéré. Mais Dieu merci, en politique, je suis un peu transgressif, donc je vais essayer de temps en temps de proposer quelque chose.
Il va falloir la trouver quand même, cette solution.
Ben oui, mais jusqu'ici, on ne l'a pas trouvé, que ce soit les gouvernements de gauche ou de droite. Enfin, ceux de gauche ont plutôt exagéré.
On ne l'a pas trouvé parce que c'est une volonté politique de ne pas la trouver?
Mais monsieur, parce qu'il y a des facilités. Jusqu'ici, il y avait une grande facilité, ça s'appelait la croissance. La croissance permettait effectivement de financer pas mal de choses. Et puis, il y avait le déficit qui permettait aussi de... On finançait tout ça, le modèle sur le déficit, et puis on le finançait sur l'impôt. La croissance indéterminée n'est plus là. Nous venons de le voir.
Elle reviendra. Elle finit par revenir.
Ah ben écoutez, j'espère.
On peut être optimiste.
Comme le maréchal de Soubise qui chasse une armée avec la lanterne, je cherche la croissance. Bon, premièrement, la croissance n'est plus là. L'endettement, on peut plus continuer à nous endetter parce qu'un jour, ça va coûter tellement cher que ça ne sera plus possible. L'impôt, c'est terminé. Donc effectivement, il ne se passera plus rien. Il ne se passera plus rien, sauf un État qui va pouvoir encore continuer à dépenser et qui va nous coûter combien? Alors vous savez, le bilan, il va falloir le faire. Le bilan, ça va être dans un an et demi, mais j'ai peur qu'il ne soit trop tard.
Les explications d'Alain Marceau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur BFM Business. Donc Alain Marceau, le député MPD français d'étranger.